toujours dans Néhémie 9, les versets 5 et suivants, il y a une prière qui est adressée avec tout le peuple. « Seigneur, que chacun loue ton nom glorieux, dont la grandeur dépasse tout ce qu'on peut exprimer. C'est toi qui es le Seigneur, toi seul. Tu as fait le ciel immense et toutes les étoiles, la terre et tout ce qui s'y trouve, les mers et tout ce qu'elles contiennent. Tu donnes la vie à chaque créature. Devant toi s'inclinent les puissances célestes. » Et ensuite, il y a un récit qui raconte en fait tout ce que Dieu a fait depuis Abraham, la sortie d'Égypte, Moïse, et finalement la visite de l'Esprit-Saint. Et c'est un texte magnifique, vous pouvez relire. Nous chanterons le 428 « J'entre dans tes portes ». Un autre texte dans un psaume, le psaume 92. « Ce que tu as fait, Seigneur, me remplit de joie. J'applaudis à ce que tu as réalisé. Seigneur, que tes actions sont grandioses et tes pensées sont profondes. Le sot ne se rend pas compte, l'idiot n'y comprend rien. Les méchants poussent comme la mauvaise herbe, les gens malfaisants sont tous florissants, mais la ruine définitive les atteint. » Qu'est-ce qui nous reste comme image du Christ? Est-ce un homme torturé sur une croix? Une simple figure historique? Un symbole qui nous rassure? Une histoire qui ne tient pas debout? Mais non, c'est un roi, et un roi qui est serviteur. Un roi vraiment spécial qui est venu servir sur la terre.
Nous allons lire deux passages dans Néhémie qui vont accompagner ce moment de partage et de méditation que Anne-Christine va nous amener tout à l'heure. Néhémie 1, le premier verset, jusque dans 1, 6 et ensuite 11. C'est l'histoire de Néhémie, fils de Hakalia. La 20e année du règne d'Artaxerces, au mois de Kislev, je me trouvais dans la citadelle de Suse. Hanani, l'un de mes parents, arriva avec un groupe d'hommes de Juda. Je leur demandais des nouvelles du reste des Juifs revenus d'exil et de Jérusalem. Ils me répondirent, « Ceux qui ont survécu à la captivité et qui vivent dans la province de Juda se trouvent dans une grande misère et dans une situation très humiliante. Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem et ses portes ont été détruites par le feu. » Lorsque j'entendis ces nouvelles, je m'assis et me mis à pleurer. Pendant plusieurs jours, je restais abattu. Je jeûnais et je priais constamment devant le Dieu du ciel. Je suppliais, « Ah, éternel Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui restes fidèle à ton alliance et qui conserves ta bienveillance à ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements, prête attention à la prière de ton serviteur. Que tes yeux soient ouverts pour voir que je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour intercéder en faveur de tes serviteurs, les Israélites, et pour confesser leurs péchés. Car nous avons péché contre toi. Oui, moi et mon peuple, nous avons péché. Je t'en prie, Seigneur, veuille prêter attention à la prière de ton serviteur et à celle de tes autres serviteurs qui aiment à te vénérer. De grâce, fais réussir aujourd'hui la démarche que je vais entreprendre et que cet homme m'accueille avec compassion. Or, à cette époque, j'étais chargé de servir les boissons à la table de l'empereur. »
Quand il y a une prière comme ça, on s'attend à ce qu'on aimerait que Dieu intervienne et fasse tout par miracle, tout se rétablisse. Mais ce n'est pas comme ça que ça s'est passé à l'époque. Alors, on continue au chapitre 2, versets 1 à 8 et 11 à 18. « La 20e année du règne de l'empereur Axarstès, un jour du mois de Nissan, pendant que l'empereur était à table, je pris du vin et lui en versai. J'étais triste, ce qui m'était jamais arrivé en sa présence. Alors l'empereur m'interrogea. « Mais pourquoi cet air triste? Tu es pourtant pas malade. Quel est le chagrin qui te ronge ?» Je fus saisi d'une grande frayeur. Je parvins toutefois à dire à l'empereur, « Majesté, je te souhaite de vivre à jamais. Comment pourrais-je ne pas être triste alors que la ville où mes ancêtres sont enterrés est en ruine et que ses portes ont été incendiées. Que désires-tu obtenir de moi ? Demanda l'empereur. Aussitôt, j'adressai une prière au Dieu du ciel, puis je répondis à l'empereur. Majesté, si tu acceptes de me témoigner de la bienveillance, permets-moi de me rendre dans la province de Juda, dans la ville où mes ancêtres sont enterrés, afin que je puisse la reconstruire. L'empereur, à côté duquel l'impératrice était assise, me demanda encore, « Combien de temps durera ton voyage ? Quand seras-tu de retour ?» L'empereur accepta donc de me laisser partir et je lui indiquai la date de mon retour. J'ajoutai, « Majesté, veuille me faire remettre des lettres destinées au gouverneur de la région située à l'ouest de l'Euphrate, afin qu'il me laisse passer en Juda. Qu'on me remette aussi une lettre destinée à Asaph, le responsable des forêts impériales, afin qu'il me fournisse le bois nécessaire pour les portes de la forteresse proche du temple, pour les murailles de la ville et pour la maison que j'habiterai. » Et un peu plus loin, au verset 11, « À mon arrivée à Jérusalem, je restai d'abord 3 jours tranquille, sans révéler à personne ce que mon Dieu m'avait inspiré d'accomplir dans la ville. Ensuite, de nuit, je me mis en route, accompagné d'un petit groupe d'hommes. J'emmenais pas d'autre animal que l'âne qui me servait de monture. En pleine nuit, je sortis de la ville, par la porte de la vallée, et je me dirigeais vers la source du dragon et la porte du fumier. J'examinais les murailles de Jérusalem. Je constatais qu'elles avaient des brèches et que les portes avaient été dévorées par le feu. Je continuai en direction de la porte de la source et de l'étang du roi, mais ma monture n'eut bientôt plus la place de passer. Alors, toujours de nuit, je remontai le ravin de Cédron en poursuivant l'examen des murailles, puis je fis demi-tour et je rentrai par la porte de la vallée. Les magistrats de la ville ne savaient pas où j'étais allé, ni ce que j'avais fait, car avant ce moment-là, je n'avais révélé aux Juifs, pas même aux Juifs, pas même aux prêtres, aux notables, aux magistrats ou à d'autres personnes responsables des travaux. Et ensuite, je leur parlais ainsi. « Vous voyez dans quel état nous nous trouvons ? Jérusalem est en ruine, ses portes ont été incendiées. Allons, rebâtissons les murailles de Jérusalem afin de mettre un terme à cette situation humiliante. » Je leur racontais comment mon Dieu m'avait accordé sa protection et ce que l'empereur m'avait dit. Ils s'écrièrent tout de suite, « Au travail, nous allons reconstruire la ville. »
Alors encore une fois, bonjour. Et si je peux aller jusqu'au Congo, je peux venir à Genève. Moutier n'est qu'à 2 heures de train de Genève Aéroport, relié toutes les heures sur la ligne de Bâle. Alors merci de votre accueil ce matin à Mérin. Je m'y sens à la fois en visite et à la maison, un peu comme lorsque je retourne à Niankoundé. Certains d'entre vous me connaissent, même depuis mon enfance, puisque j'ai grandi dans la région de Nyon. Pour les autres, j'habite depuis 20 ans à Moutier, plus de 20 ans, d'où mon accent que vous reconnaissez peut-être un peu. Je suis actuellement chargée de projet dans le domaine de la communication à la Fédération interjurassienne de coopération et de développement, qui est la petite sœur de la Fédération genevoise de coopération, après avoir passé 7 ans comme animatrice Terre Nouvelle dans le cadre des églises réformées du canton du Jura et du Jura bernois. En ce premier dimanche du temps de carême, je n'ai pas résisté à aller faire un tour du côté du matériel de la campagne de pain pour le prochain et action de carême. Parce que, en effet, comme je le disais ce matin, ça fait la première fois en 8 ans que je ne suis pas dans un culte de la campagne de carême, puisque c'est la première année que je ne fonctionne plus comme animatrice Terre Nouvelle. Et je n'ai pas eu besoin d'aller très loin pour trouver le fil rouge de la méditation dans laquelle j'aimerais nous entraîner ce matin, à partir du livre de Néhémie dont nous venons d'écouter le début. En effet, toutes les affiches et les supports de la campagne que vous avez peut-être vus ou que vous allez en tout cas voir prochainement s'articulent autour de 2 verbes, voir et agir, et qu'ils sont illustrés par un objet, c'est une loupe grossissante. Et je dois dire que tout ce que j'ai vu et vécu en accompagnant Fanny pendant 1 mois dans les 5 centres du CEMADEF en Ituri, en automne dernier, se résume aisément par ces deux verbes que nous retrouvons mis en application dans l'histoire de Néhémie. Alors je vous propose que nous aussi prenions une loupe grossissante et qu'on fasse des va-et-vient entre le contexte décrit dans les premiers chapitres du livre de Néhémie et celui de l'Est du Congo. Au final, j'espère que notre méditation ressemblera à un tissage dont les verbes « voir » et « agir » et puis quelques autres qu'on ajoutera constitueront la trame et sur lesquels vont s'entremêler les fils de leur mise en application. Vous remarquerez peut-être que j'évite soigneusement le terme de prédication, et ce n'est pas un hasard parce que je ne suis ni théologienne ni pasteur, et je viens vraiment ce matin parmi vous comme témoin de ce que j'ai vécu, témoin de ce que je vis aussi au quotidien dans ma foi. Et c'est un témoignage que je vais partager avec Fanny, qui interviendra pour illustrer certains points de ce que nous allons partager ensemble. Alors avant de prendre nos loupes, juste quelques mots d'introduction pour situer ce texte de Néhémie que nous avons entendu tout à l'heure. Une histoire d'une surprenante actualité et qui remonte pourtant à près de 2500 ans avant Jésus-Christ, puisqu'elle se situe au 4e siècle avant Jésus-Christ. Israël a subi plusieurs déportations successives et ses habitants sont dispersés dans tout le Moyen-Orient. Jérusalem est sous domination perse et certains juifs, on l'a entendu, ont eu l'autorisation de rentrer en Judée mais n'y vivent pas très bien. Ils sont avec le prêtre Esdras et ont commencé à essayer de reconstruire le temple. Néhémie, quant à lui, est échanson à la cour du roi Artaxerxès. Il vit à Suse, la capitale du royaume perse, et c'est une ville qui est située à plus de 800 kilomètres de Jérusalem. Donc à l'époque, ce n'était pas très très proche. Et pour ses contemporains, Néhémie est un privilégié. Il travaille à la cour du roi, il a un emploi assuré, il a des privilèges aussi qui sont certainement liés à sa fonction. Donc son train de vie n'a rien à voir avec celui des déportés qui sont rentrés au pays. Le livre qui porte son nom, et dont nous avons entendu les extraits, il se présente comme un journal personnel. Vous avez peut-être remarqué qu'il est écrit en « je ». Il raconte ce qu'il a vécu alors même qu'il a entendu les nouvelles et au moment où il est rentré, et tout le livre se déroule vraiment est écrit sous cette forme-là. Mais avant de voir, puisque c'est ces deux verbes que j'ai dit, voir et agir, qui vont nous être au cœur de notre réflexion, Néhémie interroge, écoute, prie, réfléchit, planifie. En effet, quand son frère Hanani débarque de Judée avec des nouvelles inquiétantes, Néhémie est tout de suite touché, il est tout de suite bouleversé, il veut connaître. Et il ne se contente pas d'écouter distraitement et de zapper, mais il questionne en détail. Et ce qu'il entend est inquiétant. Les Juifs qui sont rentrés au pays sont dans une grande misère. Leur situation est humiliante. Les murailles de Jérusalem ont des brèches. Ses portes ont été incendiées. Combien de situations aujourd'hui dans le monde sont identiques à celles décrites ici dans le livre de Néhémie? Combien de situations pareilles ne voyons-nous pas tous les jours sur nos écrans? Néhémie laisse une brèche s'ouvrir au plus profond de lui-même et il se sent profondément solidaire de ce qui arrive à ses frères, bien qu'ils soient très loin géographiquement. Puisque le texte dit « Lorsque j'entendis ces nouvelles, je m'assis pour pleurer durant plusieurs jours, je restais dans l'affliction en jeûnant et je me mis à prier le Dieu du ciel. » Avant même d'avoir vu ou de penser à agir, Néhémie s'arrête. Première chose, il stoppe tout, il prend du temps. Et le texte parle de plusieurs jours. Prend du temps pour accueillir la tristesse suscitée par ces nouvelles entendues, pour se laisser bousculer, pour se révolter aussi contre la souffrance et l'injustice, et pour décider de réagir. N'est-ce pas cela, prier? Très vite aussi, il associe le malheur de ses frères au péché, le sien et celui de toute la communauté. C'est un réflexe profondément humain sous toutes les latitudes et depuis toujours, qui conduit soit à la repentance et à l'action, soit à la résignation et à la passivité. Et Néhémie, lui, choisit le chemin de la repentance. Nourri par ses journées de prière et de jeûne, par sa méditation de la loi, par ses réflexions, Néhémie se sent appelé à s'engager, à faire quelque chose de concret et à s'impliquer personnellement. Mais il ne se lève pas non plus comme un Zorro solitaire, même s'il prendra un certain nombre d'initiatives, parfois assez radicales, qu'on peut lire plus loin dans le livre. Il a conscience de l'enjeu collectif du problème. Il veut impliquer tous les acteurs, chercher le dialogue, même la confrontation. Et c'est ce qui fera de lui un leader reconnu dans sa communauté. Sa force, il l'appuie dans son expérience, mais aussi dans son recours permanent au secours de Dieu sur lequel il compte pour réussir dans son entreprise. Pour lui, c'est vraiment très important, vous avez vu ses allers-retours. Dès qu'il est confronté à une situation, il prie. C'est un réflexe chez Néhémie. Et l'histoire du début du Semadef à l'est du Congo est presque un copier-coller de ces quelques versets. Quand je lis l'histoire de Néhémie, j'entends aussi Fanny raconter les débuts du Semadef. En 2003, quand la guerre frappe l'est de la République démocratique du Congo et atteint Bunia, Fanny et Tony sont encore dans la région et entendent ces nouvelles. C'est le moment aussi où ils vont arriver à Merin, à peu près à cette période. C'est une période extrêmement troublée pour eux. Les portables n'ont pas encore envahi le Congo comme c'est le cas aujourd'hui et ils entendent eux aussi les nouvelles qui viennent de leurs proches, qui viennent de leur famille. Et ces nouvelles sont du même ordre que celles que Néhémie entend en provenance de Jérusalem. La ville est dévastée, les maisons sont incendiées, il y a des pillages, les gens meurent. La situation est absolument dramatique. Comme Néhémie, Tony et Fanny prient. Ils crient à Dieu leur révolte, leurs questions, leur incompréhension. Ils demandent des nouvelles, ils cherchent à savoir. Ils ne peuvent pas rester tranquilles et à distance du drame qui se joue en Ituri. Alors Fanny décide de se rendre au Congo pour aller voir. Comme Néhémie qui a ce cœur d'aller voir ce qui se passe, Fanny a ce cœur de rentrer au Congo pour aller retrouver les membres de sa famille dont elle n'a pas de nouvelles, elle ne sait pas où ils sont, et pour aller dans les camps à leur recherche et voir comment les aider, comment intervenir. Alors Fanny, qu'aimerais-tu dire en témoignage à ce niveau ?
Merci beaucoup, Anne-Christine. Après la lecture du message d'Anne-Christine, je réalise quand même qu'il y a beaucoup de ressemblances entre la procédure que Néhémie a choisie pour reconstruire Jérusalem et celle que j'ai utilisée pour mettre sur pied le Semadef. Nous sommes arrivés à Genève 6 mois après la destruction de Bunia, notre ville natale. Tout a été détruit, les activités économiques, les membres de famille dispersés, les amis se retrouvaient dans les camps de déplacement. Et nous étions parmi les privilégiés parce qu'on se retrouvait à Genève. Nous sommes arrivés à Genève, on était très bien accueillis, d'abord par cette communauté et les amis. On nous a tout donné, on était inondés de biens matériels. Mais quand même, on n'était pas très confortable. Pourquoi ? Parce que les nouvelles qui venaient de chez nous n'étaient pas bonnes. Comme Anne-Christine vient de le dire, je ne connaissais même pas où se trouvait ma sœur avec ses enfants parce qu'ils ont marché à travers la forêt pour aller dans une autre région. Ils étaient dans les camps, des déplacements. Et tout ce qu'on attendait, c'est la misère, Notre maison a été pillée, détruite. Donc, malgré tout ce qu'on avait, on n'avait pas quand même cette paix intérieure. Alors, je trouvais que ce n'était pas encore le moment de savourer la belle vie genevoise. Il fallait attendre. Je suis retournée d'abord au Kenya parce que nos enfants étaient encore au Kenya. Et de là, j'ai décidé de me rendre au Congo, à Bunia, précisément au nord-est du Congo, et visiter les camps de déplacement pour rechercher les membres de nos familles et aussi voir les amis. Tout le monde me prenait pour une folle, dit, mais c'est pas possible. Parce qu'à ce moment-là, il y avait encore des milices très actives. Mais je ne pouvais pas non plus vivre sans connaître toutes ces nouvelles. Je me suis dit, non, je vais y aller. Et je suis partie, j'ai visité les camps, j'ai vu tout ce que je pouvais faire à ce moment, c'est de prier et de pleurer avec cette population misérable. Voilà, on va continuer la Suisse. La suite.
Je pense que là, Fanny a dit quelque chose de très important. J'ai d'abord prié, j'ai pleuré. Elle n'a rien fait. Dans sa position, Némi non plus n'a rien fait tout de suite. Il aurait sans doute eu les moyens, comme Fanny les avait aussi ici avec Tony à Genève, de remettre une enveloppe à Anani et de lui dire, écoute, rentre au pays, rentre à Jérusalem, et puis comme ça, tu t'occuperas des gens là-bas avec l'argent que je t'ai confié. Et lui, il aurait eu bonne conscience, il aurait été tranquille, et il aurait continué sa vie à Suse. Mais Néhémie n'est pas un homme de cette trempe, et Fanny et Tony non plus. Comme elle l'a dit, elle est allée elle-même sur place. Lui aussi a voulu aller lui-même sur place pour évaluer la situation et les besoins, et comprendre comment il pouvait s'engager pour responsabiliser son peuple et l'aider à prendre en main son destin. Mais on l'a vu, même qu'il est haut fonctionnaire à la cour du roi, il ne peut pas juste décider de partir et puis s'en aller le lendemain matin. Parce que j'imagine quand même que c'était une haute fonction, il était dans des conditions qui étaient quand même proches de l'esclavage ou qui ne ressemblaient en tout cas pas à un emploi où il avait des vacances qu'il pouvait prendre comme il voulait. Donc, le moment où il reçoit les nouvelles, son temps de prière, 4 mois s'écoulent sans aucun signe d'une quelconque intervention divine. Rien. 4 mois qui lui permettent de mûrir sa décision, de se demander si vraiment il veut toujours aller à Jérusalem, de planifier son action, mais surtout de continuer à prier, de clarifier sa motivation, et puis sans doute aussi un petit peu de s'impatienter. Parce que comme tous, quand nous prions, et lui-même l'a fait, il a dit « Accorde à ton serviteur de réussir aujourd'hui ». Et 4 mois, c'est cool. Il y a 2500 ans, tout prend du temps même dans l'urgence, ici aussi parfois. Mais finalement, Dieu exauce Néhémie au-delà de ses espérances. Un exaucement qui n'a rien de passif, au contraire. Toute la vigilance de Néhémie est requise. Vous avez peut-être remarqué que c'est lui, Néhémie, qui doit reconnaître le moment où les événements se précipitent, où une brèche s'entrouvre lorsque le roi lui demande pourquoi il est triste et ce qu'il cherche à obtenir. La réponse ne lui vient pas servie comme ça sur un plateau, facile, ça y est, c'est Dieu qui me répond. Non, il doit saisir ce moment, cet instant de grâce où, voilà, c'est le moment où il sent Dieu est en train d'agir. Il tremble de peur, mais il trouve la force de devenir l'acteur audacieux de la réponse qu'il attend. Et c'est à mon avis un des moments clés de ce récit. Un de ces moments comme on en vit tous à un moment donné ou l'autre de nos vies, où nous savons, où nous sentons au plus profond de nous-mêmes que l'appel qui résonne en nous vient de plus loin, vient de plus haut, vient de l'esprit. Le piège de la prière, c'est de croire que Dieu va agir sans nous et intervenir miraculeusement de l'extérieur. Et la plupart du temps, c'est juste l'opposé qui se passe. En priant, En fait, je me place en première ligne pour devenir instrument de la réponse que je demande. Et là, Fanny va aussi nous donner un exemple, une illustration de la manière dont elle est devenue, elle aussi, la réponse à sa prière.
Attendre, c'est pas facile. Quand j'étais partie, je vis. Mais il fallait attendre. Et attendre quand les gens meurent. Attendre quand on voit les femmes pleurer. Mais je n'ai pas voulu non plus agir sous émotion. Il fallait trouver un moyen d'aider sans créer la dépendance. Et d'aider d'une façon durable. Donc entre voir et agir, donc la vision et l'action, ça a pris 2 ans chez moi. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 ans? Pendant ces 2 ans, il y a eu encore 4 verbes qui se sont ajoutés entre les deux. Prier, parce que j'ai continué à prier. Écouter, je suis retournée presque 4 fois au Congo pendant ces 2 ans pour écouter les femmes, qu'elles me disent leurs priorités. Ce n'est pas nécessairement ce que je pensais qui était peut-être leur désir. Je les ai écoutées, j'ai parlé avec elles. Analyser la situation. Voir ce qu'on pourrait faire. Et réfléchir avant de passer à l'action. Et cela a pris 2 ans. Mais pendant ces 2 ans, j'attendais aussi la réponse de Dieu. J'attendais que Dieu puisse susciter quelqu'un pour aller répondre à la demande. Mais personne ne s'est pointé. Donc je devais moi-même me pointer pour résoudre les problèmes parce que c'est moi que Dieu a envoyé pour voir. Il n'a pas envoyé une autre personne. Il m'a envoyé moi. Il a montré la situation à Fanny. Alors, ce n'est pas une autre personne qui viendra maintenant résoudre le problème. C'est comme si Dieu me disait, mais je t'ai envoyé là-bas, je t'ai montré la situation, maintenant, passe en action, agis. Mais comment? Je n'avais pas les moyens. Je ne savais que faire. Mais ce que je savais au fond de mon cœur, c'est que Dieu était en train de me parler. Parce que la situation était devenue très forte à moi et j'avais vraiment cette détermination d'agir et de faire quelque chose. Alors, il fallait commencer quelque part. Et comme la réponse ne venait pas, j'ai commencé avec ce que j'avais. J'avais juste 1700 francs. Avec 40 femmes. Et quand je suis passée en action, c'est alors que Dieu s'est présenté. Et il a commencé à faire sa part. Et chaque année, il multipliait notre somme par 10. Vous
voyez que l'histoire de Némi reste actuelle. Et que là, nous avons la chance d'avoir un témoignage où on la vit en live. Donc même que c'est un récit qui a 2500 ans, aujourd'hui encore, il prend toute son actualité. Et il est rempli d'enseignements pour nous. Et ce qui est extraordinaire aussi dans l'histoire de Némi, qu'on va voir aussi dans l'histoire du Semadef, c'est que une fois que tout est en place, Némi peut partir avec toutes les autorisations légales et même les moyens pour démarrer son projet, ce que Fanny vient de nous dire. Tout est là parce qu'il a su attendre, il a su planifier, saisir le moment pour commencer. Tout semble donc s'annoncer pour le mieux et pouvoir se dérouler sans problème. Mais en général, quand on commence une activité de ce type, ce n'est pas du goût de tout le monde. Et très vite, les adversaires vont apparaître aussi sur la route, sur notre route. Et nous lisons ceci dans le chapitre 2 de Néhémie. Lorsque Sanballat le Horonite et Tobia son adjoint ammonite apprirent que j'arrivais, ils furent très mécontents que quelqu'un vienne s'occuper du bien-être des Israélites. Voilà Néhémie qui a envie de faire quelque chose pour son peuple, qui part pour tenter de les aider, et aussitôt quelqu'un entend qu'il vient pour faire du bien, et eux ne sont pas du tout n'ont pas du tout les mêmes intentions. Ils sont en effet les chefs d'une mafia locale qui vivent en Judée et qui tirent profit des déportés revenus au pays. On ne sait pas exactement quelle était leur activité, mais il est facile d'imaginer qu'un peuple sans structure, ce groupe d'exilés revenus au pays, sans autorité établie, était la proie facile de personnes influentes. Donc l'arrivée de Néhémie, qui vient avec un mandat officiel, qui vient avec des moyens, ne représentait rien de bon. Et au Congo, ce genre de personnes sont au paradis, parce que le pays est suffisamment désorganisé pour que toutes sortes de gens puissent se mettre en travers de la route. Et Fanny n'a pas eu besoin d'attendre très longtemps avant de croiser des Sanballat et des Tobia quand elle a décidé d'agir en faveur de ses frères et sœurs en Ituri.
Oui, les opposants ne manquent jamais partout, que ce soit en politique et même dans les projets de développement. Il y en a toujours. Mais chez moi, il y avait surtout la méfiance des personnes envers ce que je faisais. Et ça, ce n'était pas seulement au Congo. C'était aussi ici à Genève. D'abord, je commence par ici. Je venais d'arriver, j'étais toute nouvelle ici. C'était juste ma première année, deuxième année. Commencer à parler des sous, demander de l'argent. Encore une Africaine. Tous les Africains sont dans un panier. Et ce n'était pas facile. Mais quand tu parles de l'argent, tous les gens ouvrent les yeux. Ouf. Et surtout pour un projet qui n'était pas encore visible. Alors c'était très difficile. Et moi aussi, je n'étais pas confortable de faire la demande. Des fois, je ne savais pas que la recherche des fonds était métier ici. Parce que je vois, il y a des gens qui font seulement ça. Fundraising, marketing, tout ça, c'est recherche d'argent. Et c'est un métier. Et ça, je ne savais pas. Donc moi, j'avais toujours cette honte-là, cette peur, je me dis, ben, allez demander de l'argent. Et ça, c'était vraiment une grande chose pour moi. Et surtout avec des réactions. De l'autre côté, au Congo, c'était différent. Une dame qui vient distribuer de l'argent, où est-ce qu'elle a trouvé cet argent? Est-ce qu'on distribue de l'argent? Mais il faut bien réfléchir. Est-ce que ce n'est pas l'argent du deuxième monde? Vous connaissez le deuxième monde? C'est le monde, satanique, monde occulte, c'est-à-dire qu'on va chercher, prier Satan pour donner de l'argent. Il y a beaucoup de croyances autour de ça au Congo, surtout de l'argent, parce que Satan donne de l'argent, il croit que Satan donne de l'argent, mais il ne croit pas que Dieu donne de l'argent. Alors c'était ça, il ne faut pas aller là-bas, il ne faut pas aller là-bas, vous ne connaissez pas l'origine de cet argent, ça ne se fait pas. Et c'est vrai que le microcrédit n'a pas existé au Congo, les Congolais n'ont pas la culture de la banque. À la banque, on peut trouver de l'argent, mais ce n'est pas n'importe qui va à la banque. Et voilà une dame qui vient avec du cash et qui distribue comme des cacahuètes, est-ce que vous pouvez croire à cette dame? Alors, tout le monde s'est méfié de ces projets. Il dit, ben, c'est pas possible. Et puis encore, quand je suis arrivée, il y a eu des organisations qui ont commencé les microcrédits pêle-mêle. Après le boom de prix Nobel de Mohamed Younes en 2006. Alors, tout le monde pensait que c'était vraiment des nouveautés. Et même au Congo, il y avait partout comme ça. Aujourd'hui, ils ont tous fermé. Mais alors, tout le monde dit, mais ça, c'est lequel encore? Il y a encore ça, il y a encore ça. Donc, ce n'était pas un bon moment pour commencer ce projet. Il y avait beaucoup de méfiance. Mais pour moi, j'ai dit, non, ce que j'ai fait, je savais au fond de moi que ce que je faisais était différent de ce que tout le monde faisait. Et je connaissais aussi la motivation derrière ce que moi, je faisais. Alors, tout le monde venait pour dire, mais tu vas fermer demain. Tu ne vois pas toutes ces organisations qui sont là. Les femmes ont fui avec l'argent. Il dit, ah bon, on va essayer. Alors, j'ai persévéré avec la prière. Et aujourd'hui, nous faisons la différence. Parce que tout le monde veut demander, mais qu'est-ce que tu as fait pour résister et pour faire grandir cette association quand toutes les autres ont fermé. Et j'ai dit, c'est la personne qui m'a envoyé. Amen.
Ça, je l'ai entendu plusieurs fois, hein, l'argent du deuxième monde. Et ma mission pendant mon voyage avec Fanny, c'était que moi, je leur explique que non, l'argent ne venait pas du deuxième monde. Elle me disait, si toi qui es blanche, tu le leur dis, elles vont te croire. Si c'est moi qui le dis, elles ne me croient pas, puisque on m'a même raconté que c'est toi-même qui me l'as dit, que certaines disaient que maman Fanny laissait son avion à Entebbe, et puis elle venait discrètement à Bunia, mais qu'elle avait son avion personnel qui l'amenait jusqu'en Ouganda. Alors je leur racontais comment maman Fanny cuisinait elle-même, à Genève, qu'elle travaillait sur la table de sa cuisine et mangeait sur la même table, qu'elle n'avait pas de bonne. Et quand moi je le racontais, les femmes riaient, mais elles me croyaient aussi. Alors quand Néhémie arrive à Jérusalem, que fait-il? C'est pourtant l'exaucement de sa prière. Il avait demandé à arriver là. C'est l'exaucement ultime. Le moment qu'il attendait depuis des mois et des mois. Eh bien, que fait-il? Rien. Pendant 3 jours, il nous dit, je restais là. Et puis ensuite, on ne sait pas combien de nuits, puisque ce n'est pas dit, il passe son temps à inspecter l'état des murailles sans dévoiler le but de sa venue. Et vous avez entendu ce que Fanny a dit tout à l'heure, elle a pris 2 ans. Et c'est un temps vraiment important quand on veut initier quelque chose, une action dans la durée. Parce que ces journées d'examen, d'analyse de la situation vont jouer un rôle crucial pour la suite. Néhémie s'accorde le temps de reprendre du temps. Il avait déjà pris du temps quand il a entendu des nouvelles, il reprend du temps là, et c'est vraiment, je pense, la clé d'un projet durable. Il fait aussi attention de ne pas dévoiler son plan, il choisit quelques personnes de confiance. Et il ne crie pas sur les toits qu'il a des moyens, qu'il est venu avec des autorisations. Il ne dit rien. Il examine, il observe. Et après seulement, il décide d'agir. Et là, encore une fois, il n'agit pas tout seul. Parce que sa mission, sa vision, cet appel qu'il a entendu ne lui donne pas tous les droits. Une fois qu'il a vérifié l'état des murailles, qu'il avait évalué l'ampleur de la tâche à accomplir, alors seulement il parle. Et il choisit les personnes auxquelles il parle, puisqu'il parle aux autorités en place, aux prêtres, aux notables, aux magistrats. Et là, il dit, il parle de la dimension spirituelle de son appel et du soutien qu'il a pu obtenir du roi. Et là, il se passe de nouveau un moment clé important, parce que quand ils l'entendent, ce sont eux qui disent « Levons-nous et bâtissons ». Ce n'est pas Néhémie qui dit « je suis venu, puis ensemble on va faire » ou « vous allez faire » ou « je suis venu faire ». Il leur parle et eux sont prêts à l'entendre. Et alors ce sont eux qui disent « levons-nous et bâtissons ». Et ça, c'est une étape importante que Fanny aussi a su franchir à Bunia. C'est qu'elle a écouté, elle a rassemblé les femmes ont exposé leurs besoins. Et aujourd'hui, aussi bien à Bunia, qu'à Mahagi, qu'à Nyankunde, qu'à Aru ou à Umba, les mamans du SEMADEF parlent en nous, les responsables comme les bénéficiaires. Et c'est elles, c'est leur projet, ce n'est pas le projet de Fanny. Oui, Fanny est importante parce qu'elle est la coordinatrice, mais ce n'est pas le projet de Fanny. Le SEMADEF, c'est elle. C'est elle qui se sont levées, c'est elle qui bâtissent. C'est le projet de toutes. Et dans le chapitre 2 de Néhémie, alors même que c'est un livre écrit en « je », à partir de là, la fin du chapitre est en nous, à partir de ce « levons-nous et bâtissons ». Et je crois qu'on est là face à un modèle de développement participatif, et on est en 400 avant Jésus-Christ, je vous rappelle. Hein.
et que parfois aujourd'hui on a encore trop de gens qui veulent aller et faire. Non, il faut aller, parler, sensibiliser, responsabiliser. Alors ma question pour nous ici à Mérin, est-ce qu'Assafi est le projet de Fanny et de quelques membres, des membres du comité, ou est-ce vraiment aussi le projet de la communauté, un projet où, ensemble, la communauté peut aussi dire « nous ». Je le crois, j'ai appris qu'il y avait 100 personnes inscrites au repas, et je pense que vraiment c'est aussi très important que ce soit de ce côté comme au Congo, un projet qui soit en nous. Personnellement, ce que j'ai vu en Ituri m'encourage à vraiment soutenir le travail d'Assafi, pour que la vision que le Seigneur a mise au cœur de Fanny continue de se traduire en actes, en Ituri. Parce que je suis profondément convaincue que cette vision s'inscrit dans la volonté de Dieu d'agir dans le monde pour reconstruire ce qui a été détruit. Alors, avec Némi, avec Fanny, avec Georgette, avec Petronie, avec Odette, avec Mégé, avec Charlie, avec Soki, avec Espérance, j'ai nommé les responsables des centres, et avec toutes les autres, levons-nous et bâtissons, prenons le temps d'écouter et de réfléchir pour voir et agir dans le sens de vraiment développer la vision que le Seigneur nous donne. Amen.